Nos droits et obligations à titre de consommateur, quels sont-ils? Pour en savoir plus, voici Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur.
Oui, Office de la protection du consommateur. Aujourd'hui, pour la chronique, on va parler de rénovation. Un sujet qui est à la mode hein, parce que semblerait qu'avec la pandémie, beaucoup de monde qui ont choisi d'améliorer leur chez-soi, les prix des matériaux qui ont explosé. Et aussi, ben là, c'est le printemps, donc c'est généralement à cette période-ci de l'année qu'on planifie nos projets de rénovation. Qui embaucher? Hein? Comment s'assurer que ces travaux-là ne vireront pas au cauchemar? Eh bien, j'ai au bout du fil Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur qui est là pour nous livrer quelques conseils utiles avant d'engager un entrepreneur. Charles, bonjour, ça va bien?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Aujourd'hui, en fait, on parle de rénovation. Donc, l'idée de s'embarquer dans des travaux de rénovation, ça peut être anxiogène pour certains, on le sait. Faut dire qu'on a tous entendu parler de travaux de construction, de rénovation qui ont littéralement tourné au cauchemar. Est-ce que c'est un domaine plus problématique que d'autres?
Ben, c'est un des secteurs qui suscite un nombre quand même important d'appels à l'office. L'année dernière, par exemple, les services liés à la construction, l'entretien, la rénovation d'habitations, ça a généré 7% des plaintes à l'office. Donc, c'est la quatrième position au palmarès après les secteurs de l'automobile, des électroménagers et des meubles. Donc, c'est quand même important.
Ouais, OK. Et quel conseil vous donneriez aux auditeurs pour qu'ils évitent de se retrouver dans ce 7% pour trouver un bon entrepreneur?
Ah ben alors sans surprise, le premier conseil c'est d'obtenir justement un entrepreneur de confiance. Alors un des moyens ben ça reste de demander conseil à son entourage. On peut aussi consulter des listes d'entrepreneurs sur des sites web d'associations, les corporations professionnelles ou encore les organisations qui font des recommandations ou qui offrent des services de médiation comme le CA Québec par exemple. On recommande aussi de faire des vérifications là quand on a des noms. Si vous avez ciblé des commerçants, bon, on peut vérifier sur Internet au registre des entreprises qui est derrière cette entreprise-là, depuis combien de temps elle existe. On a aussi un répertoire des jugements sur le site jugement.qc.ca où vous pouvez taper le nom d'une entreprise puis voir si c'est une abonnée à la Cour des petites créances. Là, ça peut être embêtant. Et puis, il y a toujours, évidemment, notre site, le site web de l'Office. On a une rubrique qui s'appelle « Se renseigner sur un commerçant ». Et là, vous pourrez voir si l'Office a entrepris des démarches pénales contre une entreprise ou encore si elle a reçu des mises en demeure de la part de consommateurs.
Mm-hmm. OK, parfait. Et si on parle de la Régie du bâtiment du Québec, ça serait quoi son rôle à ce moment-là?
Oui, effectivement, ça fait partie des vérifications aussi. Le site de la Régie du bâtiment, on va aller voir si l'entreprise a sa licence d'entrepreneur. Mm-hmm. C'est la RBQ qui donne les licences et pour l'obtenir, l'entrepreneur doit fournir un cautionnement. Donc, c'est un montant d'argent qui sert à garantir ses obligations. Un autre point essentiel pour le choix d'entrepreneur, c'est de s'assurer que la licence de la RBQ est en règle et que c'est de la bonne catégorie. Il y a plusieurs catégories de licences selon le type de travaux qu'on a à faire. Alors, c'est important de vérifier ça. Voir aussi si l'entrepreneur a une assurance responsabilité civile mm-hmm. au cas où il causerait des dommages à votre propriété.
OK, parfait. Et si c'est l'inverse, c'est pas nécessairement nous qui trouvons l'entrepreneur, mais c'est l'entrepreneur qui vient cogner à notre porte pour offrir ses services. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Ah oui, ben faut savoir que les entreprises qui font du porte-à-porte pour vendre des travaux de rénovation doivent aussi détenir, en plus de la licence RBQ, doivent détenir aussi un permis de vendeur itinérant de l'Office de la protection du consommateur.
OK. Et si à ce moment-là, l'entrepreneur se déplace chez nous à notre demande, est-ce qu'il y a quand même besoin de ce permis-là?
Oui, ben dans les secteurs de la rénovation résidentielle, c'est une particularité. Pour tous les commerçants qui vendent ou installent des portes et fenêtres, des isolants thermiques, ou des couvertures ou des revêtements extérieurs. Dans ce cas-là, même quand c'est vous qui l'appelez pour mm-hmm. venir chez vous pour conclure un contrat, c'est considéré comme du commerce itinérant.
Okay.
Et donc, ils doivent avoir la licence RBQ et le permis de l'office.
OK,
donc le permis, lui, c'est un gage. Il ne faut pas croire que le permis de l'office est un gage de compétence ou d'honnêteté. Ça implique que le commerçant a versé son cautionnement à l'office et qu'il doit suivre les règles sur le commerce itinérant. Au sujet des commerçants itinérants, toujours, là, il faut se méfier de ceux qui vous disent qu'il y a des travaux urgents à faire, qui vous annoncent que vous avez un gros problème, infiltration d'eau, moisissure dans l'entretoit. Alors, quand on vous presse de signer sur le champ, il faut se méfier, toujours se demander, toujours demander une deuxième opinion à un autre spécialiste. Et il y a aussi des entourloupes pour ceux qui offrent des, qui parlent des subventions gouvernementales, des programmes d'efficacité énergétique, etc.
Ah ouais.
Souvent, on va vous vendre ça plus beau que c'est. Il faut garder en tête que ni le ministère de l'Énergie, ni Hydro-Québec font de la sollicitation par téléphone ou par porte-à-porte pour leur programme d'efficacité énergétique.
OK, parfait. Une fois, là, on a fait notre bouche-à-oreille, on a demandé conseil à notre famille, on a regardé sur Internet, on a ciblé 3-4 entreprises. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, ben, l'important, c'est de bien définir son projet. On fait un plan, on détaille les matériaux, la nature des travaux, ce qu'on veut le plus précisément possible, mais aussi tous les autres aspects alentour de ça. Est-ce que ça prend un permis? Qui va le trouver? Qui va s'en occuper? Les déchets de construction? Qui va s'en occuper? La propreté? Les délais aussi. Est-ce qu'on vous promet ça cet été ou bien vous avez des dates très précises? Il faut être le plus précis possible parce que ça évite justement les mésententes par la suite. Il existe sur Internet des contrats types en rénovation, on peut s'en inspirer. Et puis, à ce moment-là, ben, quand tout ça est bien inscrit quelque part dans notre tête et même sur papier, on peut demander des soumissions à 2 ou 3 entrepreneurs. Et on s'arrête pas seulement au prix. Faudrait parce que souvent, le moins cher va être celui qui a le plus tendance à vous facturer des extras en cours de travaux, là, des surprises, etc. Alors, on prend pas nécessairement le moins cher. On considère aussi la confiance que l'entreprise nous inspire. Et puis, on s'assure aussi que toutes les promesses qui ont été faites lors des discussions sont bel et bien inscrites sur papier noir sur blanc.
Okay.
Et puis, ben, évidemment, de ces derniers temps, le coût des matériaux de construction, c'est un élément particulièrement important. Et on a vu les entrepreneurs tenter de renégocier un contrat, changer le prix, parce que le prix des matériaux avait explosé. Alors, faut vérifier si l'entrepreneur est bel et bien engagé sur son prix ou s'il y a une clause qui permet de modifier le prix en fonction des fluctuations du coût des matériaux. Ça peut être risqué. Autre détail important, si vous avez un calendrier de réalisation très précis en tête, faites-le inscrire au contrat. On pourrait même penser à des pénalités en cas de retard, parce que souvent ça arrive, les travaux se prolonge et puis bon, vous manquez vos vacances ou des choses comme ça. Alors, faut prévoir ces choses-là.
OK, parfait. Et là, maintenant, si je signe un contrat avec un entrepreneur et que, pour une raison ou une autre, finalement, je change d'idée, je veux annuler ce contrat-là, est-ce que c'est possible de le faire?
Bon, si c'était considéré comme du commerce itinérant, comme on parlait tantôt, là, signé chez vous par certains types de d'entrepreneurs, à ce moment-là, oui, on a toujours 10 jours pour annuler une entente. Et si, par contre, ce n'était pas le cas, c'est plutôt régi par le Code civil, on peut résilier le contrat, mais l'entrepreneur, par contre, pourrait vous réclamer des dommages. Et là, ça peut finir devant les tribunaux. Alors, l'idéal, c'est de s'entendre. Parfois, la situation se dégrade et on préfère arrêter tout cela. C'est certain qu'on va devoir payer les travaux qui sont faits, mais on pourrait aussi devoir payer une pénalité, là, si ça va jusque-là.
OK, parfait. Et là, pour les travaux, à quel moment on doit payer l'entrepreneur?
Ça aussi, c'est très important. Généralement, les entreprises veulent voir que vous êtes sérieux, donc vont vous demander un dépôt. Enfin, pas tout le temps, mais ça arrive. Faudrait donner le plus petit montant possible en acompte. Ça peut être 10 ou 15 du montant. Et par la suite, ça serait bien que le contrat prévoit des versements par tranche de travaux, là, si à moins qu'on paye tout à la fin, mais bon, souvent l'entrepreneur va vouloir être payé au fur et à mesure que ça avance. Et à ce moment-là, ça peut être inscrit au contrat aussi. On se garde toutefois à la fin des travaux un 10 ou 15% du montant total pour s'assurer d'abord que les travaux ont été bien faits, mais aussi pour vérifier que tous les sous-contractants, tous les sous-traitants ont bel et bien été payés par l'entrepreneur principal, parce que si c'est pas le cas, il pourrait faire lever une hypothèque légale sur votre maison, et ça, c'est vraiment déplaisant. Alors, on demande la liste des sous-contractants, on s'assure qu'ils sont payés, et quand tout est beau, on paye la dernière tranche.
OK, parfait. Et là, on parle de payer, on le sait, des travaux de rénovation, c'est coûteux. Des fois, c'est tentant de faire nos travaux par un beau-frère, une connaissance, pour payer moins cher ou même en dessous de la table. Qu'est-ce que vous en dites de ça?
Ouais, ben bien sûr que au-delà du fait que le travail au noir c'est illégal, il faut savoir aussi qu'en cas de problème, vous pourriez vous retrouver sans aucun recours. Alors puis ça peut aussi dégrader des relations d'amitié ou des relations familiales. Alors c'est risqué, nous on vous le déconseille.
Ça peut être une économie sur le coup, mais il y a quand même beaucoup de désavantages à prendre en considération. Il y a des risques. Tout à fait. En terminant, si on a besoin de plus d'informations, on a des problèmes avec un entrepreneur, comment est-ce qu'on peut joindre l'office à ce moment-là?
Alors, on a un numéro sans frais, c'est le 1-888-672-2556, notre site web opc.gouv.qc.ca. Il y a aussi, évidemment, la régie du bâtiment qui peut intervenir. Et je vous recommande également une association, il y a un site web aussi, l'ACQC, l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, qui peut vous donner des conseils utiles, des renseignements et tout ça. La SCHL aussi peut être une bonne source pour les sujets de rénovation éco-énergétique.
Excellent, je pense que ça en aura éclairé plusieurs. Charles Tanguay, merci beaucoup d'avoir été là, puis bon week-end.
Merci à vous aussi, au revoir.
Au revoir.
C'était la chronique de l'Office de protection du consommateur avec l'expert Charles Tanguay.